Voilà, on veut continuer ces moments en partageant la parole ensemble. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre d'Ésaïe, prophète Ésaïe au chapitre 7. Dans ces temps de Noël, on va parler d'une parole qui concerne le Seigneur Jésus et particulièrement sa naissance. Alors, on ne va pas s'attarder longtemps sur ça, parce que la semaine prochaine, il y aura l'occasion d'entendre en long, en large, en travers, et surtout de se réjouir de cette naissance. Noël, ça veut dire la naissance, hein, le jour de la naissance. Mais c'est intéressant de voir ce que dit la parole de Dieu, et particulièrement les prophéties concernant le Seigneur Jésus. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. On va voir dans Matthieu maintenant, chapitre 1er, l'accomplissement de cette prophétie. C'est 700 ans, plus de 700 ans même après qu'Ésaïe ait prophétisé. Voilà ce que nous lisons dans Matthieu. Matthieu chapitre 1er, verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'est pas précisé, mais on sait que c'est Ésaïe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et là, on a une précision, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. La naissance de Jésus, c'est déjà de se réaliser. Le désir de Dieu, c'est ce qui a été dit, la parole a été faite chair, mais c'est le désir de Dieu d'être avec nous, avec les hommes pécheurs. Dieu a décidé de manifester sa présence de manière particulière envers les pécheurs en envoyant Jésus, Dieu avec nous. Regardez maintenant dans la fin, on a lu le premier chapitre, mais à la fin du chapitre, la fin de l'évangile de Matthieu, donc le chapitre 28, regardez la dernière parole que Jésus va dire. C'est très intéressant. Une des premières paroles qui est dite dans Matthieu, c'est que ça sera Emmanuel, Dieu avec nous. Et regardez ce que Jésus dit maintenant. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et écoutez bien ce que le Seigneur dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voyez-vous le lien qu'il y a entre ce commencement, déjà 700 ans avant, Ésaïe qui dit, et on va l'appeler Emmanuel, Matthieu qui au premier chapitre dit « Voilà, ça s'est accompli, voilà l'Emmanuel, il est là, c'est Jésus !» Et Jésus, avant de partir, d'être enlevé de ce monde pour aller s'asseoir à la droite du Père, qui dit « Je suis avec vous !» Jésus, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Jésus est celui qui veut manifester la présence de Dieu, qui veut que nous puissions vivre la présence de Dieu de manière particulière dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, dans tous les endroits où nous allons. Alors ça, c'est déjà une merveilleuse promesse. Hein, et rien que ça, on pourrait être satisfait ce matin. C'est très intéressant parce que quand on étudie les évangiles, quand on cherche le mot présence, la présence de Dieu, c'est quelque chose qu'on aime, dont on aime parler et donc surtout qu'on aime vivre. Mais quand on étudie les évangiles, on s'aperçoit que le mot en lui-même, présence, est très rarement utilisé. Et quand il est utilisé, c'est quasiment jamais pour parler de la présence de Jésus. Alors ça fait réfléchir, parce que Jésus, quand il est parlé de sa présence, il est parlé de quelqu'un qui est avec, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui prend le même chemin que nous. Alors on va voir plusieurs situations, plusieurs personnes qui vont vivre la présence de Jésus. Dans Luc chapitre 24, plusieurs personnes, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des disciples, mais tous vont vivre la présence de Jésus ou le manque de présence de Jésus de manière particulière. Et à chaque fois, ils vont recevoir de la part de Dieu une réponse précise à la au questionnement qu'il y a dans leur cœur. Ce que l'on peut noter déjà, c'est que il y a un lien indéfectible entre la présence de Jésus et la parole de Jésus. Si vous aimez la parole de Jésus, alors la présence de Jésus va être révélée dans votre vie. C'est obligé. Si vous ne l'aimez pas, ben vous risquez d'être frustré parce que Dieu ne peut pas, Jésus ne peut pas aller contre sa parole. Tu l'as dit, c'est la parole faite chair. C'est impossible qu'il se renie lui-même. Mais si on aime sa parole, et quand on ouvre la parole de Dieu comme ce matin, et qu'on laisse le message venir jusqu'à notre cœur, ben on goûte déjà à un peu de la présence de Dieu. Luc, alors je vous ai dit 24, on va commencer quelques versets un peu plus haut, donc chapitre 23, verset 55. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates, des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Amen. Des femmes qui sont là, qui ont côtoyé le Seigneur Jésus pendant son ministère. Et combien de femmes ce matin voudraient avoir vécu la même expérience que ces femmes ? Vous êtes d'accord, mesdames ? Avoir connu le Seigneur Jésus en chair et en os, c'est quand même quelque chose. Même si on a la grâce de le connaître par le Saint-Esprit, ça fait quelque chose de le connaître en vrai. Mais ces femmes cherchaient le Seigneur Jésus, se préoccupaient du Seigneur Jésus, mais ne se préoccupaient pas du Seigneur Jésus dans la réalité de ce qu'il était devenu, parce qu'elles ignoraient qu'il était ressuscité. Et elles sont allées le chercher, où ça ? Ben là où elles pensaient qu'il était, au tombeau, entouré de l'ange, et elle venait préparer des aromates, embaumer son corps, elle voulait lui donner la meilleure sépulture. Est-ce que c'était mal que de vouloir faire ça ? Ben non, c'était une bonne disposition de cœur. Elles avaient ce désir de faire quelque chose pour honorer le Seigneur, mais la seule chose qui bloquait dans l'histoire, c'est que Jésus n'y était plus. Le tombeau était vide, et déjà là, ils auraient dû commencer à réfléchir, à dire est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qu'il nous avait dit le Seigneur. Mais vous savez, parfois, parce qu'il faut quand même imaginer la scène, elles l'ont vu à la croix mourir, elles l'ont vu rendre le dernier soupir, elles ont entendu toutes les paroles, et puis elles l'ont vu mettre par Joseph dans le tombeau. Elles ont vu, et voilà l'image qu'elles ont gardée du Seigneur Jésus. Et on ne peut pas leur en vouloir d'avoir gardé cette image dans leur cœur, et d'avoir oublié, mis en oubli, les promesses que le Seigneur avait dites. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que malgré leur incompréhension, malgré leur tristesse, malgré tout ce qui est là, le brouillard qui est devant leurs yeux parce qu'elles ne discernent pas, elles cherchent le Seigneur Jésus. Et ça, c'est ce qu'il faut faire en tout temps, frères et sœurs. Chercher le Seigneur Jésus. Pour elles, ça se concrétise par cette question, mais où est-il ? Où c'est qu'il a été mis ? Qui c'est qu'il a volé peut-être ? Et il y a la question qui s'est posée. Et quand, vous savez, on se pose des questions, quand on veut chercher le Seigneur Jésus, quand on veut aller plus loin avec le Seigneur Jésus, qu'on a l'impression de ne pas savoir où c'est qu'il se trouve, le Seigneur, il aime nous répondre. Le Seigneur, il aime nous révéler des choses. Alors là, ils ont carrément eu la révélation, deux anges. Hein. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'avoir deux anges qui viennent vous révéler les choses. On aimerait ça aussi, hein, ça nous plairait. Mais là, c'était un contexte de la résurrection quand même, et quand ça concerne Jésus, regardez le ministère de Jésus. Jésus avait dit, vous verrez les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc c'était la continuité de ça. Hein. Dieu voyant ses servantes qui cherchaient son fils, a envoyé deux anges. On sait d'ailleurs que certaines d'entre elles, dont Marie de Magdala, elle a carrément été confrontée au Seigneur Jésus, qu'elle n'a pas reconnu au début. C'est un autre évangile qui le rapporte. Elle pensait que c'était le jardinier, mais elle a vu le Seigneur Jésus ressuscité. Quand nous ne savons pas où chercher, quand nous ne savons pas que chercher, le Seigneur veut nous donner une réponse. Et le Seigneur veut nous aider à comprendre. Saisie de frayeur, il est dit, elles baissèrent le visage contre terre. Quelle humilité, quelle adoration, peut-être, oui, il y avait de la crainte, mais on comprend, elles ont compris surtout qu'elles se tenaient devant des personnes qui étaient envoyées par Dieu. Elles ont compris qu'il y a quelque chose de spécial qui était en train de se passer. Elles auraient pu tellement avoir peur qu'elles allaient fuir, hein. On sait que les soldats, c'est ce qui s'est passé. Quand il y a eu le bruit, le tombeau, la pierre qui est devant le tombeau qui a été roulée par l'ange, les soldats, qui c'était leur travail de garder le tombeau, ils sont partis. Et les femmes, elles sont restées. Elles ont voulu en savoir plus. Maintenant, qui c'est qui a suscité la peur? Qui c'est qui a fait peur, finalement? Est-ce que c'est pas Dieu, en envoyant ses anges, qui a fait qu'il y a eu un sentiment de peur dans le cœur de ces personnes? Vous savez, des fois on est rapide en disant « Aïe, j'ai peur, donc c'est le diable qui m'attaque !» Mais non, des fois le Seigneur nous met dans des situations inconfortables pour que notre attention soit attirée, parce que sinon on ne l'écoute pas. Sinon on reste focalisé sur ce que l'on croit. Il est au tombeau, etc. Non, là il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'elles sont obligées d'être un peu en alerte par rapport à, et de remettre en question ce qu'elles pensaient et... Ce sentiment de peur, bien sûr, Dieu ne veut pas le faire perdurer, hein, ce n'est pas sa façon de faire. Parfois, il attire notre attention, mais tout de suite, il nous donne une parole pour expliquer. Et c'est ce qu'il va faire. Il va donner tout de suite une parole et en même temps une question. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? C'est une bonne question, ça. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Vous cherchez Jésus, c'est merveilleux, c'est super, il faut continuer. Mais vous ne le cherchez pas au bon endroit. Le Seigneur est ressuscité. Amen. Parfois, dans notre esprit, dans notre façon de nous comporter face au Seigneur, on peut laisser donner l'impression qu'on pense que Jésus est mort. Mais on doit toujours garder confiance dans le Seigneur. Toujours avoir ce désir de le chercher, de le poursuivre, d'être des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Souvenez-vous, va dire l'ange, vont-ils dire, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Il faut qu'il ressuscite le troisième jour. Et vous savez ce qui est marqué? Vous l'avez lu, hein? Elles se ressouvèrent. Elles ont compris, elles se sont rappelées, elles ont fait le lien entre ce qu'elles étaient en train de voir, d'assister, et puis ce que Jésus avait dit. Et parfois on a besoin, et souvent même on a besoin que le Seigneur intervienne pour faire le lien entre le présent, entre le concret de nos vies et la parole de Dieu qu'on connaît, les promesses qui nous sont données, mais qu'on n'a pas forcément attaché beaucoup d'importance, et qu'à un moment donné le Seigneur nous rappelle... Par sa grâce, parce qu'il nous aime. Oui, il y a des temps difficiles. Oui, il y a des inquiétudes. Oui, il y a des incompréhensions. Oui, mais il y a un Dieu aussi qui nous aime et un Dieu qui veut nous répondre dans nos questionnements. Un Dieu qui est là pour nous faire du bien. Souvenons-nous, frères et sœurs, c'est la même chose que le don spirituel. C'est exactement pareil. Souvenons-nous des promesses que le Seigneur nous a dites. Est-ce que le Seigneur vous a promis des choses? Est-ce que le Seigneur vous a fait des promesses? Vous allez me dire, ah non, moi il ne me parle jamais, mais lisez la Bible, les promesses elles sont là. Alors bien sûr, des fois il y a des promesses de manière très très précise, je connais dans mon cœur, et moi j'ai toujours eu cette habitude, quand il y avait un don spirituel, que je savais que le Seigneur me parlait, mais je l'écrivais, je le gardais quelque part dans ma Bible. Vous savez quoi? Ma première Bible, je l'ai perdue. Et il y avait tout marqué dedans. Je crois que je l'avais posé sur le toit de la voiture et on a démarré comme ça et on a essayé de revenir sur le pas pour chercher. Il y avait quelques pages par-ci par-là, mais on n'a jamais retrouvé. Mais c'est pas grave, vous savez pourquoi? Parce que ce que j'avais écrit sur des papiers, ça m'a aidé à le retenir. C'est écrit dans mon cœur maintenant. C'est écrit dans ma mémoire. Et ce que je sais, c'est que des promesses que le Seigneur m'a données quand j'avais 19 ans, par exemple, certaines, je me souviens, très précises, se sont accomplies. Et certains éléments restent encore à s'accomplir, mais je patiente. Et je me rappelle continuellement les promesses que le Seigneur nous donne. Vous savez ce qui s'est passé? À la suite de ce moment-là, ces femmes sont revenues. Et c'est ce qu'il est dit au verset 9, à leur retour du sépulcre. Et le mot retour, c'est, on pourrait dire presque demi-tour, on pourrait presque parler de repentance. C'est presque le même mot que la repentance. En tout cas, il y a eu un demi-tour. Elles sont allées au sépulcre pensant que Jésus était là-bas, mais maintenant qu'elles ont vécu cette expérience, le souvenir des promesses du Seigneur qui sont éternelles, elles font demi-tour. Et où c'est qu'elles sont allées? Ben, lisez le verset 9, à leur retour du sépulcre. Elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Mais regardez la réaction. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Vous auriez aimé vivre ça? Oh, je pense qu'on l'a tous vécu, à un moment donné où on parle du Seigneur, on parle des choses qu'on a expérimentées, et puis les gens en face nous prennent ça pour des rêveries. Oh là là, celui-là, c'est un illuminé. Celui-là, il dit des choses, mais il ne sait pas de quoi il parle. On a tous vécu ça. Mais est-ce que ça a empêché à ces femmes de savoir ce qu'elles avaient reçu de la part de Dieu? Certaines qui, Marie de Magdala particulièrement, de qui le Seigneur a chassé tellement de démons, qui s'est offert pour être un disciple du Seigneur, qui l'a suivi pendant tout son ministère, et qui a eu le privilège d'être une des premières à voir le Seigneur Jésus ressuscité. Même si les hommes se moquaient d'elle parce qu'ils disaient, mais non, tu as rêvé, tu as imaginé, ça s'est pas passé. Mais est-ce que quelqu'un pouvait enlever ce que Dieu avait mis dans son cœur? Non, parce que c'était du concret. Frères et sœurs, ce matin, nous pouvons écouter la parole, passer un bon moment, dire Amen, ou nous pouvons dire Seigneur Jésus, je veux goûter à la présence du ressuscité. Je veux Emmanuel Dieu avec moi ce matin. Je veux expérimenter quelque chose de ta part, comme ces femmes ont pu l'expérimenter. Mais on voit que dans tout ce chapitre, c'est ce que Jésus va faire. La première chose que le Jésus ressuscité fait, c'est qu'il se révèle. Il montre qu'il est Dieu avec. Alors il était déjà pendant tout son ministère, hein, parce qu'il était Dieu avec les hommes, Dieu fait chair parmi les hommes, mais là, c'est Dieu avec chaque individu personnellement. Et regardez au verset 13, cette histoire que l'on connaît bien des disciples, ce qu'on a surnommé les disciples d'Emmaüs. Voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, Emmanuel Dieu avec nous. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans la gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. les disciples d'Emmaüs. Cette fois-ci, c'est des hommes, d'accord? C'est l'égalité dans la parole, déjà. Il y a les femmes, il y a les hommes, et puis après, on va voir, c'est tous les disciples réunis qui vont vivre une expérience avec Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Et la même question est dans le cœur de ses disciples. Où c'est que se trouve le Seigneur Jésus? Alors eux, ils parlent de son corps, mais où c'est que se trouve aussi le Seigneur Jésus dans tous les événements qui viennent de se passer? On pensait que c'était un prophète, on pensait que c'était quelqu'un qui allait amener la libération d'Israël, on pensait ceci et cela, et le Seigneur Jésus ne se trouve pas dans les raisonnements que l'on a faits. Savez-vous, frères et sœurs, que ça arrive? Que parfois le Seigneur Jésus n'est pas dans nos raisonnements, le Seigneur Jésus n'est pas dans nos façons de penser, le Seigneur Jésus n'est pas dans les endroits où on pense qu'il devrait être. Mais le plus beau de tout, c'est qu'il était juste à côté d'eux. Il n'était pas là où ils imaginaient qu'il devait être, mais il était juste à côté d'eux en train de leur parler. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus, jamais ne nous abandonne. Jamais. Il ne met dehors celui qui vient à lui. Et même parfois, quand nous sommes dans nos brouillards de raisonnement, il est à côté de nous pour nous aider, pour nous murmurer à l'oreille ce dont on a besoin d'entendre. Combien de personnes dans ce monde se trouvent seules? On le dit souvent, la période de Noël, c'est la joie des familles, mais pour les personnes seules, c'est difficile. Mais quand on est croyant, on n'est jamais seul. Parce qu'on a une grande famille spirituelle, on a des frères et sœurs, mais on a aussi surtout la présence du Seigneur Jésus, qui nous rejoint, même dans des moments de raisonnement un peu compliqué. Et on voit qu'il y a de la tristesse. Jésus est sensible, hein, c'est lui qui met en relief. Pourquoi est-ce que vous êtes tout triste comme ça? Vous savez, quand on est triste, le Seigneur Jésus le voit et il veut arranger la chose. Il est celui qui nous donne une joie. Il veut que la joie en nous, elle soit comment? Parfaite. Pas à moitié. Une joie parfaite. Plus grande que toutes les joies que ce monde peut nous donner, la présence de Jésus nous permet d'avoir une joie parfaite. Dans les discussions de ces personnes, c'est pareil, Jésus est mort. Et on pense et ils raisonnent comme si Jésus est mort, ils sont frustrés, déçus par ce qui vient de se passer, ils espéraient plein de choses et ça ne s'est pas réalisé, mais alors qu'ils disent tout ça à cet inconnu qui est à côté d'eux, l'inconnu, nous on a la clé de l'histoire, donc c'est facile de regarder avec notre œil à nous. Nous, on sait que c'est Jésus. C'est dit dès le début. Mais l'inconnu, c'est Jésus à côté d'eux, malgré leur incrédulité. Et c'est comme ça que Dieu a choisi de répondre. Il y avait des questions dans leur cœur, encore une fois, par rapport au fait de chercher le Seigneur Jésus, de se demander ce qui lui était arrivé. Il y avait des questions et Dieu envoie une réponse. Et là, ce n'est pas n'importe quelle réponse, parce que Jésus en personne vient leur parler. Vous savez comment c'est bon quand on laisse notre oreille attentive aux commandements et aux paroles et aux conseils du Seigneur. Pourtant, quand même, quand il le fait au verset 25, c'est qu'il y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Hein. Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et puis, une question. Vous savez, quand Jésus nous pose des questions, ça vaut la peine de s'y pencher. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses? Qu'est-ce qui se serait passé si le Christ n'avait pas souffert à la croix? Mais frères et sœurs, on ne serait pas là. Hein. C'est aussi simple que ça. L'homme ne pourrait pas être réconcilié avec son Créateur. Mais parce que Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est venu, nous pouvons être réconciliés. Et il n'est pas question d'une religion, il n'est pas question de rites d'habitude, il n'est pas question de tout cela, il est question juste de la présence de Dieu avec l'homme au travers du sacrifice de Jésus au travers de l'Emmanuel. C'est pour ça que, à la fin de ses explications, lorsque Jésus veut partir un peu plus loin, semble vouloir partir plus loin, qu'est-ce qu'ils leur disent, ses disciples à Jésus? Reste avec nous. Toi qui es Emmanuel. Alors, il ne savait pas que c'était Emmanuel, hein, mais il réalisait quand même les paroles. Reste avec nous. Et est-ce que Jésus allait refuser, lui qui est Dieu avec nous? Ben non, il est resté. Et il est resté avec eux, et on sait qu'ils se sont mis à table, ils ont partagé le repas, il y a eu ce temps de grâce, de prière, il y a eu ce temps de communion. Et dans ce moment-là, leurs yeux se sont ouverts. Et c'est à ce moment-là que les yeux se sont ouverts, que Jésus a disparu. Parce qu'ils n'avaient plus besoin d'avoir la présence de Jésus de manière en chair et en os, parce qu'ils avaient compris. Et Jésus était avec eux maintenant, spirituellement parlant. Parce qu'ils avaient compris tout ce qui s'était passé. Et regardez la réaction. C'est quoi la réaction? Au verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent un demi-tour encore à Jérusalem. Vous allez me dire, mais non, mais c'était pas loin, c'était le bon moment, il faisait sûrement beau, pas de kilomètres. Non, ils venaient de marcher dans l'autre sens pendant toute la journée, et ils ont dû refaire tout le chemin inverse. En plus, c'était le soir, c'était la nuit, ils ont dit, Seigneur, ne pars pas, c'est la nuit. La nuit, le jour est sur son déclin, donc c'était la nuit. Mais ils ont marché de nuit, ils ont fait les kilomètres malgré la fatigue, parce qu'ils ont rencontré Jésus le ressuscité. Est-ce que vous êtes fatigué ce matin? Est-ce que vous êtes lassé? Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous vous sentez faible? Ça nous arrive à tous, mais dans tous ces moments-là, nous avons Emmanuel, Dieu avec nous, qui veut nous rejoindre, qui veut nous accompagner et qui veut renouveler notre force. Regardez comment ces hommes ont eu la force renouvelée. Et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu la force? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu du courage? Mais c'est parce qu'ils voulaient dire à tout le monde ce qui s'était passé. Oh, j'ai pas de force pour pouvoir parler, je suis timide, je veux pas dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais quand on laisse le Seigneur nous renouveler, quand on touche la présence de Dieu dans notre vie, mais ça se fait naturellement. La seule chose que l'on doit faire, c'est chercher le Seigneur Jésus. Et le laisser nous exhorter, le laisser nous conseiller, le laisser corriger peut-être nos raisonnements qui ne sont pas les bons raisonnements. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Il a dit d'ailleurs, s'ils ont fait ça au maître, est-ce qu'ils ne vont pas faire ça aux disciples? Pourquoi aurions-nous peur de la persécution? Alors, ce n'est pas question de se jeter dans la gueule du loup, hein, bien sûr que non, mais que les gens se moquent de nous parce qu'on parle du Seigneur. Et alors, ils se sont moqués de Jésus. Est-ce que ce n'est pas pire? Et si nous portons le nom de croyants, de chrétiens, de petit Christ, c'est normal que les gens se moquent de nous. Mais ça ne doit pas empêcher le beau message de la bonne nouvelle d'être annoncé par nos bouches. Et j'aime cette expression, je crois que c'est celle qu'on retient souvent quand on parle des disciples d'Emmaüs. Notre cœur brûlait au-dedans de nous quand il expliquait les Écritures. Vous savez que ça doit être la norme. Quand Dieu nous parle, notre cœur doit brûler. Si notre cœur ne brûle pas quand Dieu parle, c'est pas la faute de Dieu. Je dirais même, c'est pas la faute du pasteur. Parce que le pasteur peut faire son maximum, ou le pasteur peut être très mauvais, c'est pas grave, c'est la parole de Dieu. Et c'est la façon dont je reçois la parole de Dieu qui va faire son œuvre dans ma vie. Parce que sinon, c'est les émotions que je recherche. Sinon, c'est les raisonnements intelligents que je recherche. Mais la parole de Dieu dépasse tout cela, transcende tout cela. Elle pénètre jusqu'au fond des cœurs. Elle est capable de juger, de discerner les pensées et de tout ce qu'il y a dans notre âme et dans notre esprit. Elle est capable de faire la différence. Parce qu'elle est, nous dit l'Épître aux Hébreux, vivante et efficace. Je termine avec ce troisième groupe. Ce sont tous les disciples. On va lire à partir du verset 33 d'ailleurs. Se levant, à l'heure même, ils retournèrent, donc les disciples d'Emmaüs retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Donc vous voyez, il a encore vécu quelque chose, même Simon. Ils racontèrent ce qu'il leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, qu'est-ce qui se passe? Lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Quand dans leur joie ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous et qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Tous les disciples sont là. On peut imaginer qu'il y a les femmes, il y a les apôtres, il y a les disciples d'Emmaüs qui sont arrivés en cours de route. Tous les disciples, tous ceux qui ont servi le Seigneur Jésus, qui l'ont suivi sur ses chemins de la Galilée, d'Israël, ils sont présents dans la pièce. Et dans ces conditions, le Seigneur se manifeste. Parce que dans le cœur de ces hommes et de ces femmes, il y a ce désir de chercher davantage du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a comme préoccupation dans notre cœur ce matin? Mais ce matin comme tous les jours. Est-ce que la préoccupation, c'est que nous voulons chercher Jésus? Est-ce que nous voulons plus du Seigneur Jésus? Est-ce que nous voulons découvrir le Seigneur Jésus comme nous ne l'avons jamais découvert? Est-ce que nous voulons vivre quelque chose de supplémentaire avec le Seigneur Jésus? Mais c'est tout à fait possible, parce que même ceux qui avaient déjà vécu quelque chose, ils revivent encore quelque chose de supplémentaire. Même les disciples d'Emmaüs qui avaient partagé presque toute la journée avec lui, ont le privilège de revivre un temps avec lui. Parce que c'est pas quelque chose de limité. C'est pas parce qu'on a vécu une expérience avec Dieu que c'est bon, tu as vécu ton expérience, maintenant c'est l'autre qui va la vivre. Non, non, Dieu est assez grand pour qu'il y en a pour tout le monde. Et pour tout le temps. Aujourd'hui, je peux vivre une expérience, mais demain aussi, et après-demain, à chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, à chaque fois que je laisse le message de l'Écriture brûler mon cœur, quelque chose se passe. Et je vais changer mon comportement. Avez-vous vu, entendu cette question de Jésus? À chaque fois, il y a une question qui est posée. Et là, pourquoi est-ce que vous êtes troublés? Pourquoi des pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Regardez mes mains. Regardez mes pieds. Je crois que c'est dans l'évangile de Jean qui dira « La paix soit avec vous » et vous savez comment il va leur montrer la paix? Regardez. « La paix soit avec vous » il leur montre ses mains clouées avec la cicatrice des clous. Savez-vous que la paix que nous pouvons avoir en tant que croyants repose essentiellement sur l'œuvre de Jésus mort à la croix? Sur les mains qui ont été clouées, sur le côté qui a été percé, sur les pieds qui ont été également percés. Voilà pourquoi quand il dit « La paix soit avec vous », il nous montre ses mains clouées, parce qu'il nous montre la preuve d'amour. Vous savez, quand on a donné sa vie pour quelqu'un, et qu'on a les marques sur notre corps, ben, ce n'est pas un péché de le montrer. C'est ce que fait le Seigneur Jésus. Il nous rappelle. Et la deuxième chose qu'il fait, après la question, c'est qu'il leur dit « Souvenez-vous, ce que je vous avais expliqué dans les Écritures. Souvenez-vous, la parole de Dieu nous parle d'un Jésus qui est vivant. Oui, il va passer, il va être l'homme de douleur. Oui, il va souffrir pour le péché. Oui, il va porter le châtiment que nous méritons, le Seigneur Jésus. Mais il est le Messie, il est le ressuscité, il est le vivant. Dans l'Apocalypse, l'Apocalypse nous montre un Jésus glorieux, un Jésus en gloire, qui a été l'agneau de Dieu, qui est l'agneau de Dieu, mais qui va revenir comme le roi glorieux un jour. La question qui se pose, c'est comment est-ce que nous allons l'accueillir dans ces moments-là? Est-ce qu'on va être focalisé sur Jésus? Ah, il est mort. Ah, Jésus, il a eu une belle vie. Vous savez, parfois, on connaît des gens qui n'ont pas la foi, mais qui croient que Jésus a existé. Quand même, les historiens, s'il y a bien quelqu'un dans l'histoire, qui a marqué l'histoire et dont on ne peut pas douter de l'existence, c'est le Seigneur Jésus. C'est évident, même des païens sont obligés de le reconnaître. Maintenant, ce n'est pas parce que je sais que Jésus a existé de manière historique que ça va changer ma vie. Ce qui change ma vie, ce qui change mon cœur, ce qui change mon existence, c'est que Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Ce matin, Jésus, c'est Emmanuel. Ce matin, Jésus veut se révéler à nous. Savez-vous ce qui s'est passé à la suite de ce moment-là? Alors que Jésus les a amenés sur la montagne et qu'il s'est élevé, c'est Matthieu 28, c'est la même histoire. Il est dit qu'ils ont regardé le ciel et puis ils s'en retournèrent à Jérusalem. ils ont fait le demi-tour dans leur cœur encore une fois. Ce matin, est-ce que nous allons faire un demi-tour? Ah non, je suis déjà converti, ça fait 20 ans que je connais le Seigneur. Mais c'est pas grave. On peut retourner à des choses meilleures, parce qu'on s'est peut-être écarté pendant un moment, et le Seigneur nous ramène. Seigneur, je veux te chercher. Je veux laisser ta parole, tes promesses, être rappelées dans mon cœur. On va fermer les yeux quelques instants. Est-ce que ce matin, nous voulons pas vivre les uns et les autres la réalité d'Emmanuel, Dieu avec nous? Jésus est l'Emmanuel envoyé par Dieu. Jésus, l'Emmanuel envoyé par Dieu, est présent ce matin par le Saint-Esprit. Est-ce que ce sont simplement des vues de l'Esprit? Est-ce que ce sont juste des pensées? Ou est-ce que nous mettons notre foi dans la parole de Dieu? Et de la même manière qu'il est venu manifester sa présence dans le rassemblement des croyants de ce temps-là, il veut manifester sa présence ce matin. Là où des hommes et des femmes invoquent son nom, le Seigneur, il est là. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, je suis au milieu de vous, va dire le Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami qui est là ce matin, est-ce que tu vis la réalité d'Emmanuel? Est-ce que tu as laissé la réalité de Jésus avec toi envahir ton cœur, envahir ton existence et changer radicalement ton cœur, tes pensées, tes raisonnements? Laisse la porte ouverte au Seigneur. Laissons, frères et sœurs, ce matin, la porte ouverte de nos cœurs à notre Seigneur. Disons-lui, Seigneur, reste avec moi. Reste avec moi dans mon cœur. Je ne veux pas te quitter. Je ne veux pas que tu me laisses, Seigneur, mais je veux que tu viennes habiter en moi et que tu demeures continuellement. Éternel, je te demande ce matin de nous visiter par ton Saint-Esprit. Merci parce que tu es le Dieu qui honore ta parole. Merci parce que quand tu promets quelque chose, tu l'accomplis. Tu avais promis qu'au bout de 3 jours, tu ressusciterais. Et tu as rappelé à toutes ces personnes, à tes disciples, que c'était la réalité. Tu nous as fait tellement et tellement de promesses, Seigneur. Et nous voulons serrer ta parole sur notre cœur, ce matin particulièrement. Et nous voulons que ta parole brûle nos cœurs ce matin, par le Saint-Esprit qui la rend vivante en nous. Seigneur, toi seul es capable de faire germer la vie dans les cœurs, grâce à ta parole et ton esprit. Fais ton œuvre ce matin. Et nous voulons simplement t'ouvrir nos âmes, que tu puisses ouvrir notre esprit, notre intelligence, afin que nous discernions tout ce que ta parole nous dit de toi, que nous ne nous trompions pas par de faux raisonnements, mais que nous goûtions à la réalité de ta bonté ce matin. Répands ton amour, Seigneur, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, et pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen.